Merci pour ces beaux cantiques. Ça réchauffe nos cœurs d'entendre des cantiques. Hein? C'est la parole de Dieu qui est chantée et avec la musique. Bien, notre sujet pour les deux prochaines semaines, c'est l'aspect prophétique de Malachie. Les frères ont enseigné depuis plusieurs semaines ce petit livre. Un petit livre qui a beaucoup de signification parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce petit livre-là. Premièrement, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, qu'on pourrait dire le premier testament. Le deuxième testament vient 400 ans plus tard, parce qu'il y a 400 ans qu'on appelle de silence entre les deux. Et on a un aspect prophétique par rapport à la déclaration de Dieu. Et j'ai intitulé ça « Une histoire d'amour unique ». Une histoire d'amour, vous savez, toutes les histoires d'amour ont une histoire. Une histoire d'amour, ça a les amoureux, ça a les grandes joies, les grandes peines. Il y a même des tragédies dans les histoires d'amour. Il y a les trahisons. Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans une histoire d'amour. Et on pourrait dire que lorsqu'on arrive à Malachie et on a lu toutes les 39 livres de l'Ancien Testament, on réalise en fin de compte que c'est toute une histoire d'amour que Dieu a pour l'humanité. Et au travers de son salut éternel, de son grand salut que nous possédons aujourd'hui, nous sommes ancrés dans cet Ancien Testament parce que le Messie est venu régler le problème du péché. Il a pris nos péchés pour en faire ses péchés, puis il a pris sa justice pour en faire notre justice. Et nous pouvons nous dire enfants de Dieu aujourd'hui, en 2020, à cause de Jésus-Christ, le Messie qui est venu. Et il y a toute une histoire à tout cela, et cette bel amour, c'est un amour qui est retraçable dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qu'on va voir la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, j'aimerais tout simplement partager rapidement avec vous. Le verdict divin est exprimé dans trois intermédiaires qui s'adressent au sacrificateur. On a vu ça dans les semaines passées. On a vu aussi à la nation. Dieu parle à la nation. Et maintenant, on va regarder ensemble un reste. Un reste qu'on retrouve au travers de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des personnes parmi le peuple juif qui demeurent fidèles à l'Éternel, qui demeurent fidèles à Dieu. Et Dieu va s'adresser, à partir du chapitre 3, verset 16, au verset 4-6, je vais aller jusqu'à la fin, va s'adresser à ce reste fidèle, ce reste qui reste attaché à Dieu. Et l'aspect prophétique de tout cela nous emmène à considérer justement le ministère prophétique qui s'interrompt avec Malachie, comme j'ai dit tout à l'heure, 400 ans pour reprendre avec Jean-Baptiste, qu'on va voir la semaine prochaine, par rapport à ce grand salut que nous possédons. Notre salut a des racines. Notre salut part de loin, parce que Dieu n'a qu'un plan. Hein? Lorsqu'il y a eu la chute dans Genèse, ne pensez pas que Dieu était surpris de tout cela. Dieu a un plan. Il y a un plan, rien qu'un plan. Et ce plan-là, il est en train de l'exécuter, et c'est lui qui va faire les choses, et c'est lui qui va faire les choses comme lui le veut et le désire. Donc, ça commence avec Abraham, dans Genèse 17. Abraham, et il fait une alliance avec Abraham, une alliance qui est spéciale. C'est qu'il arrive devant Abraham, puis il dit, « Je vais tout accomplir, Abraham. Moi, là, je fais alliance avec toi, puis je vais te promettre ceci, je vais te promettre cela. » Et Dieu garde ses promesses envers Abraham. Ensuite, Abraham a eu Isaac, dans le chapitre 17, 21. Ensuite, c'était Jacob qui lutta avec Dieu, et c'est là qu'on a la naissance d'Israël. Israël naît. Et de Israël viennent les 12 tribus. Et tout l'Ancien Testament nous parle justement de cette histoire d'amour entre Dieu et Israël. Et c'est intéressant de voir tout cela. Et de cela vient le Messie, va venir Jésus lui-même. Alors, la relation entre Dieu et Israël, j'ai aimé Jacob, c'est-à-dire Israël. Déclaration d'amour. Alors, vu qu'il y a une histoire d'amour, il y a une déclaration d'amour, n'est-ce pas? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre les peuples qui sont sur la surface de la terre. Déclaration d'amour parmi tous les peuples qui existent sur la terre. Dieu a choisi Israël. On appelle ça la première couche d'élection. Et parmi ces 12 tribus, il a choisi une tribu, Judas. Et là, Dieu a choisi dans cette deuxième couche d'élection un plan extraordinaire pour sauver l'humanité. Parce que Dieu a dit à Abraham, toute l'humanité va être blessée, va être va être blessed, je dis en anglais blessé, mais blessed, je dis trop en anglais dans ce temps-ci, va être béni, va être béni à cela. Et la déclaration d'amour va aussi loin de dire, ce n'est point parce que tu as surpassé en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que je vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Serment qu'il a fait à vos pères. Dieu a promis qu'il y a un plan, il a promis des choses, il garde ses promesses. Alors, la relation entre, il y a aussi l'exemple d'époux-épouse. Dans Osée 3:1, l'Éternel dit à Osée, hein, va encore et aime une femme, hein, aime une femme, aimer d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Voyez-vous cet amour, même si, lorsque Israël était infidèle, Dieu aimait Israël quand même. Ça ne vous rappelle pas des affaires, ça? Lorsqu'on est infidèle, lui demeure fidèle. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime avec nos difficultés, avec nos failles. Il nous aime et Dieu va aimer Israël de cette manière-là. Il y a une autre manière qu'il va aimer Israël étant jeune, je l'aima. Et là, les Osée 11:1 ici, c'est toute l'histoire en fin de compte. Que Israël se détourne de l'Éternel, mais il dit, quand tu es né, quand tu étais jeune, Israël, je t'aimais. Dieu a une peine d'amour, mes amis. Dieu a des sentiments. Dieu a une peine d'amour. Et c'est trois manières de voir Dieu. Et là, on va regarder ensemble, si vous voulez, la relation d'Israël avec Dieu est comme des dents de scie, hein, dents de scie. Dieu est un prophète. Dieu amène un prophète, il parle. Un moment donné, Israël obéit. Un moment donné, Israël désobéit, il tombe en bas. Un moment donné, Dieu renvoie un prophète, il remonte en haut. Et c'est comme ça tout au long de l'Ancien Testament, c'est comme ça, et ça ressemble à notre vie. Ça ressemble à notre vie. Souvent, nous, on est là, puis on est fidèle au Seigneur, ça va bien, puis un moment donné, hop, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Le juste tombe et se relève. Et Israël, l'histoire d'Israël est comme ça dans l'Ancien Testament. Si vous voulez résumer l'Ancien Testament, pensez à une scie. Il y a des grandes victoires, des grandes défaites. Il y a des grands pas d'obéissance. Il y a des rétrogrades. Ils font la volonté de Dieu, un moment donné, puis un moment donné, ils font le contraire. Il y a de l'infidélité envers Dieu. Mais Dieu les aime quand même. Dieu les aime quand même. Et c'est cela qu'on voit dans Malachie lorsque Dieu va parler à ce reste qu'on va voir tout à l'heure. Là, on peut lire Malachie 3, 16 et 18. Sachant cela, on peut lire 3, 16 et 18. Parce que le verset 16 dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire le reste, ceux fidèles, ceux qui s'attachent à l'Éternel et qui se parlent l'un à l'autre, qui parlent de l'Éternel, qui élèvent l'Éternel parmi eux, ceux qui... que l'Éternel fût attentif et l'écoute. L'Éternel écoutait ces gens-là, ce reste fidèle à Dieu qui parle. Il les écoutait, puis il a fait un livre, le livre de souvenirs fut écrit. Et ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a écrit un livre de souvenirs. Il y a un livre de vie, mais il y a un livre de souvenirs aussi. Et là, toute l'histoire d'Israël est écrite dans le cœur de Dieu, parce que Dieu aime. Et c'est pour ça, lorsqu'il termine Malachie, lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament, on va réaliser que Dieu il a un plan A pour Israël. Israël est là et Dieu l'aime encore, malgré toute la désobéissance. Et ça nous rappelle nos propres vies. Peut-être vous dites en vous-même, oui, mais Israël, c'est des humains. On est tous des humains, n'est-ce pas? Mais savez-vous que Dieu vous aime même lorsque vous faites commettre un péché? Je ne dis pas aller commettre des péchés, Dieu vous aime. Mais savez-vous que Dieu vous aime quand même lorsque vous péchez? Lorsque vous savez quoi faire. Et si vous êtes dans le reste, là, vous allez être de ceux qui allez confesser vos péchés. Vous allez être de ceux qui allez demander pardon à Dieu. Vous allez être de ceux qui vont rester fidèles au Seigneur malgré les chutes, malgré les épreuves, malgré les mauvaises décisions que vous allez prendre, que nous allons prendre. On va être capable de rester fidèles à Dieu parce que Dieu nous regarde et est attentif à nos vies, comme qu'il est attentif à la vie d'Israël. Ils sont à moi. Là, on parle d'Israël. On ne parle pas d'Église. Ils sont à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiennent au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils et le serre. Et je vous verrai de nouveau, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Versets 17 et 18 nous mentionnent justement que Dieu prépare un jour. On va parler de ce jour-là un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va en parler. Un jour, ce jour prépare. Il prépare un jour spécial pour Israël. L'Église n'annule pas Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Israël a un plan, Dieu a un plan A pour Israël et un plan A pour l'Église. Au jour que je prépare, et ce jour-là, dans le chapitre 4, versets 1 à 3, nous le voyons. Et dans, pour résumer ces trois versets, j'ai mis ici en évidence le principal de ces trois versets. Il y a la malédiction et la bénédiction. Ça va être des jours, pour certains, ça va être la malédiction, puis pour d'autres, ça va être une bénédiction. Pour ceux que ça va être la malédiction, pour Israël, ça va être ardent comme un fournaise et ne leur sera ni racine ni rameau. Et la réaction, il n'y a pas de réaction, c'est la désolation, c'est la défaite, c'est l'anéantissement. Et pour d'autres, ça va être la bénédiction. Pour d'autres, ça va être le soleil de la justice va se lever et la guérison sera sur ses ailes. Puis la réaction, c'est que vous allez sortir et vous allez sauter comme des veaux d'un étable. Des veaux d'un étable qui est passé l'hiver, enfermés, qui sortent au printemps. Alors, on voit que deux sortes de réactions que le prophète Malachie va nous donner ici par rapport à Israël. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir? J'essaie de vous expliquer rapidement avec ça. Malachie est en train de voir un jour, le jour de l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui est sur le haut d'une montagne, puis il regarde en haut de l'autre montagne. Et là, il ne voit pas vraiment ce qu'il y a dans le bas, là. Il ne voit pas dans le fond de la montagne, ici, dans le fond du précipice. Tout ce que Malachie voit, lui-là, là, hein, 400 ans avant la naissance de Jésus, Malachie voit le jour de l'Éternel au bout tout à fait. Bon, on va le voir un peu plus tard la semaine prochaine, mais le jour de l'Éternel, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose qu'on va nous-mêmes expérimenter comme Église, comme épouse de Jésus-Christ. Donc, le mystère caché de toute éternité qu'on voit dans la parole, là, je me suis mis une note, Michel ne parle pas trop de ça, parce que c'est pour la deuxième partie la semaine prochaine. C'est important. Mais pour ce matin, sachons que le jour de l'Éternel, Israël, il y a 9 millions de Juifs en Israël présentement. Il y a 3% de ces Juifs-là qui sont convertis au Seigneur. En 72 ans, il y avait 3 familles chrétiennes en Israël. Aujourd'hui, sont 30 000 chrétiens dans Israël. Il y a beaucoup d'évangélisation qui se fait là. Israël voit son Messie de plus en plus. Il y a un reste fidèle à Yahshua, fidèle à Jésus. Alors, c'est intéressant de voir cela. Alors, voici le jour de l'Éternel. J'aimerais élaborer un petit peu sur le jour de l'Éternel avec Zacharie 14. Alors, arrière-plan de jour de l'Éternel, c'est quoi ce jour-là? Mais premièrement, voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et le verset 2 de Zacharie 14 nous dit, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles t'attaquent Jérusalem. La ville sera prise. » Les maisons seront pillées et les femmes violées. Et la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste, voyez-vous, le reste, comme Malachie, Zacharie va nous dire, le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il a combattu au jour de la bataille. Le jour de l'Éternel, la présence physique de Yahshua, de Jésus sur le mont des Oliviers, l'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds s'opposeront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, de l'Orient à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. La moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. C'est assez détaillé pour vous, ça, mes amis. Voyez-vous, la vallée orientée est-ouest apparaîtra lorsque les montagnes seront écartées en direction du nord et du sud. Ça va être une grande vallée. Elle est connue sur la vallée d'Armageddon. C'est la dernière grande guerre. Et ce jour de l'Éternel, que l'Éternel prépare. La réaction des gens à Jérusalem, et c'est intéressant, vous fuirez alors dans la vallée, dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Et là, j'espère que vous voyez le clin d'œil. Viendra. Et tous ses saints avec lui. Il ne vient pas tout seul, il vient avec tous ses saints avec lui. Et c'est important. Et on va le voir un peu plus tard la semaine prochaine. Réaction de la création. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière et il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Et là, on voit la réaction de la création. Vous savez, dans Romains 8, 22, lorsqu'on parle que la création elle-même souffre les douleurs de l'enfantement, puis elle attend la rédemption des fils de Dieu. Elle attend la fin de ce siècle, de ces siècles anti-Dieu. Et c'est cela qui va arriver. Ce jour-là n'est pas là encore, mais il arrive. C'est l'aspect prophétique de tout cela. Alors, on voit ici le lien prophétique entre Israël et les païens, c'est-à-dire les non-juifs. On voit ça dans Romains 11, 25, 26. Et là, on va comprendre pourquoi que Malachi est important, puis le jour de l'Éternel est important, de séparer Israël de l'Église. Car je ne veux pas, frère, que vous soyez que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Pensons pas que nous, on a tout là. En attention, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Le salut vient des Juifs. Le Messie vient de la race juive. Et par la race juive vient le salut, vient Jésus. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impies. On voit la relation ici, l'apôtre Paul, dans le chapitre d'un chapitre de Romains 9, 10 et 11, va nous parler de ce mystère révélé qui a été ignoré, que Christ va revenir un jour, puis il va régler les choses en ce qui concerne Israël, en ce qui concerne l'Église. Et si Israël est tombé, n'oublions pas le premier chapitre de Jean, souvenez-vous, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accepté. Et à cause de cela, l'Éternel est venu chercher les non-juifs. Donc, dans l'Ecclésia, comme Éphésiens nous dit, il y a les Juifs, les non-Juifs qui forment l'épouse, qui forment les saints de l'Éternel. Et nous allons revenir en ce jour-là avec lui pour sauver un reste d'Israël. La similitude entre Israël et les non-Juifs, les païens, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. C'est ça qui est arrivé. Le fait qu'Israël a rejeté son Messie dans le premier siècle a fait en sorte que le salut s'est étendu à toute l'humanité et accomplissant à ce moment-là la prophétie et la promesse faite à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham, par la descendance d'Abraham, qui est le Messie qui vient. Verset 31 nous dit, « De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde que vous avez obtenu aussi miséricorde. » Ça, c'est chapitre 11, versets 30 et 31. Ces deux versets nous montrent, en fin de compte, que l'apôtre Paul veut dire, « Pètez-vous pas les bretelles, là, parce que Dieu a un plan pour Israël. » Puis, comme nous, on a obtenu miséricorde parce qu'eux ont rejeté le Messie, de même, eux vont obtenir miséricorde parce que Dieu va se révéler à Israël parce que c'est une histoire d'amour unique. Je t'aime. Ceux qui touchent à Israël touchent aux prunelles des yeux de Dieu. Et cet aspect prophétique nous ramène tous à la même place. Puis, n'oublions pas, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et c'est l'argumentation ici du chapitre 11, c'est qu'on a tous besoin d'un sauveur, que ce soit juif ou non-juif, on a besoin d'un sauveur. Mais nous sommes dans l'époque de la grâce, nous sommes dans l'époque de l'Église présentement. Mais un jour, le jour de l'Éternel va venir. Ce jour va venir où ce que Dieu va mettre les pieds sur le mont des Oliviers, puis il va sauver Israël, parce que le monde entier va se tourner contre Israël, qui va être devenu une pierre pesante pour toutes les nations. Et aujourd'hui, on écoute des nouvelles spécialisées sur Israël. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur l'Internet. Dans les postes de TV, on l'entend moins. LCN n'en parle pas, CNN n'en parle pas. Mais si vous allez dans les postes spécialisés sur Israël, le Moyen-Orient, vous allez entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui brassent dans ce petit coin de pays-là. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on lit nos Bibles, il faut s'asseoir à Jérusalem. Il faut regarder alentour de nous. Et ça se passe, ça va tout se passer là. Ça va tout se passer là. Donc, la similitude entre Israël et les païens et les non-juifs, c'est qu'on a tous besoin d'un sauveur. Puis ils vont reconnaître Jésus. Et c'est ça qui est important dans tout cela. Je vais reculer ici. Ce qui est important dans tout cela, c'est que... Ce que je voulais dire, c'est... Ah, j'ai perdu mon fil. Bon, à tous les cas. Israël va venir, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, la similitude ici, tous ont péché. On est tous dans le même panier, on pourrait dire. Et on va tous reconnaître Jésus comme Messie, comme Sauveur. Et c'est important. Maintenant, lorsqu'on regarde cela, les sept questions plutôt désinvoltes que Israël ou nous, charnels, posons à Dieu. J'ai mis les sept questions-là un peu pour réfléchir, pour terminer ensemble. En quoi nous as-tu aimé? Je ne sais pas dans nos vies chrétiennes si on vit des périodes et on ne pose pas cette même question-là comme Église, comme être humain, comme chrétien. En quoi avons-nous dédaigné ton nom? En quoi t'avons-nous souillé? En quoi te fatiguons-nous? En quoi devons-nous revenir? En quoi t'avons-nous frustré? En quoi t'avons-nous parlé entre nous contre toi? En voulant dire, on a parlé entre nous autres contre Dieu. En quoi? Et je crois que c'est ces questions-là qui résument toute l'attitude d'Israël, toutes les conversations d'Israël. C'est quelque chose qui nous touche comme chrétiens, comme Église, qu'on doit se poser les mêmes questions pour nos vies chrétiennes. Est-ce que moi, je pourrais tomber dans le même piège? Et ce qu'on a vu, dans Malachie, on a vu beaucoup ça, l'attitude des choses qu'on doit faire. Et la question est là. Et il faut savoir dans tout cela, c'est qu'on est des humains, tout le monde. Tout le monde sont humains. Mais Dieu a un plan spécial pour Israël, très spécial pour Israël. C'est une histoire d'amour unique, une histoire qui va nous toucher tous parce que c'est l'histoire aussi de notre vie chrétienne. Pourquoi c'est arrivé ces choses-là? J'ai tenu à mettre ces versets-là pour terminer. 1 Corinthiens 10, 6 et 1 Corinthiens 10, 11. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. L'apôtre Paul nous le dit, nous avertit, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu eux. Ces choses-là sont arrivées, nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Quand on lit l'Ancien Testament, faut pas juger les Juifs puis les traiter de ci, traiter de cela. Ah, regarde, il aurait dû faire ci, puis il aurait dû faire ça, puis comment se fait ça, ils sont comme ça, puis Dieu, il fait des choses extraordinaires devant eux autres, puis ils ne croient pas. N'oublions pas qu'on est tous des humains, puis on a tous tendance à désobéir à Dieu, comme qu'on a par l'esprit une tendance à obéir à Dieu. Alors, les mauvais désirs, est-ce qu'on en a nous aussi? Oui, on en a nous aussi des mauvais désirs. Mais le Seigneur, dans tout cela, nous aime, malgré tout cela. Puis lorsqu'on fait un péché, on sait quoi faire avec un péché, c'est qu'on le confesse à Dieu, puis il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. C'est une histoire d'amour unique qui nous enseigne, nous, l'Église, que Dieu est fidèle, Dieu garde ses promesses, et Dieu va venir un jour régler les choses concernant les nations, concernant la terre. Hier, j'écoutais les nouvelles des petites filles qui ont été assassinées. Je me disais, jusqu'à quand ça va être demain? Est-ce que ça va être toujours comme ça? Est-ce que ça a été toujours comme ça? Ça ne change pas, hein? Le cœur de l'homme ne change pas. On est en 2020 avec toutes les inventions qui existent, avec le supposé savoir de savants, de monde qui étudient le comportement des êtres humains, puis des psychiatres, puis des psychologues. Puis on regarde tout ça, puis il y a encore des affaires comme ça qui se passent. Puis il y aura toujours des choses comme ça qui vont se passer jusqu'au jour de l'Éternel. Parce que le jour de l'Éternel, là, on va voir la différence entre le méchant et le bon, entre celui qui est juste et injuste. Parce que Dieu va venir tout régler ces choses-là. Un jour, le propriétaire de la terre va dire, je ferme la boutique, puis c'est fini les affaires. Et Dieu va établir son millénium, et il va y avoir 1000 ans de paix que Dieu nous donne, afin de vraiment voir la différence entre ce qui est vraiment de Dieu. Et on va ensemble jouir de tout cela, nous, l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ. L'aspect prophétique de Malachie est un aspect extraordinaire, mais c'est un secret de famille pour les enfants de Dieu. C'est un secret de famille. Et si ce que j'ai dit ce matin, vous ne comprenez absolument rien de ce que je viens de dire, bien, posez-vous la question. Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel? Est-ce que vous êtes repenti de vos péchés? Est-ce que vous avez placé votre foi seule en sacrifice de Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu? Que le Seigneur nous aide chacun de nous à marcher pour sa gloire, à reconnaître qu'il est souverain, qu'il y a un plan, le plan A. Il n'est pas surpris par rien. L'être humain sera toujours l'être humain. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, que vous soyez juif ou non-juif, que vous soyez du Canada ou des États-Unis ou de l'Espagne. Peu importe. Le virus, il est partout. Et ça aussi, c'est partout. Le virus du péché. Prions. Seigneur, je sais que ce matin, Seigneur Dieu, on a rapidement passé sur un grand sujet. Et ma prière, c'est que tu puisses, Seigneur Dieu, toucher nos cœurs au travers de tout cela. Nous faire réaliser que tu es un Dieu qui garde tes promesses. Tu gardes tes promesses faites à Abraham, des promesses faites à Jacob, à Israël, promesses faites à ton peuple que tu aimes, que tu as choisi, que tu vas être fidèle jusqu'au bout avec ce peuple, jusqu'au jour de l'Éternel. Ça nous rappelle, nous, qui sommes l'Église, Seigneur, ta fidélité envers nous, malgré nos imperfections, malgré nos péchés, qui si facilement nous enveloppe. Seigneur Dieu, qu'on est heureux de savoir que tu nous aimes inconditionnellement, comme tu aimes Israël, et que tu nous aimes tellement, Seigneur. Nous avons hâte de te voir face à face pour te connaître comme tu nous connais et qu'on puisse, Seigneur Dieu, avec toi, Seigneur, venir et expérimenter ce jour de l'Éternel sous le mont des Oliviers, à la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Amen.